Vous écoutez
RMC. RMC, la matinale week-end.
Le journal de Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Une importante fissure détectée sur la 13 entre Paris et Vaucresson. Cet axe est fermé à la circulation dans les deux sens jusqu'à lundi inclus. Le gouvernement s'attaque à la shrinkflation, la pratique qui consiste à réduire la quantité du produit mais pas le prix. Affichage donc obligatoire des produits concernés dès le 1er juillet dans les supermarchés. Chaude ambiance hier au Stade Bauer pour fêter la montée du Red Star en Ligue 2.
Et du monde sur les routes ce week-end.
Un week-end de chassé-croisé, c'est orange dans le sens des retours en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Orange également dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes. Ajoutez à ça, la 13, l'autoroute pour rejoindre la Normandie, est fermée à la circulation jusqu'à lundi. Une importante fissure a été détectée hier matin entre Paris et Vaucresson. Une surveillance est en cours pour mesurer l'ampleur des dégâts. Cassandre Brault.
C'est pendant une opération de maintenance dans les nuits de jeudi à vendredi que cette importante fissure a été découverte. La faille est profonde de 50 à 80 cm selon les endroits. Alors pas question de laisser cette portion d'autoroute ouverte entre Paris et Vaucresson. Une fermeture actée dans les deux sens jusqu'à ce lundi au moins. En attendant, les experts s'affairent à comprendre. Cette fissure résulte d'un glissement de terrain et elle pourrait encore évoluer selon Jacques Sally, directeur des routes d'Île-de-France.
On met ça sous surveillance, on met des capteurs qui permettent de voir si il y a des évolutions et des mouvements. Et si la surveillance est positive, on peut envisager une réouverture. Si par contre on s'aperçoit qu'il y a encore quelques mouvements de terrain dangereux, il faudra prendre des mesures complémentaires qu'il faudra décider en début de semaine prochaine.
Des itinéraires alternatifs sont disponibles. La préfecture des Hauts-de-Seine conseille de s'orienter vers l'A15 ou l'A86 le plus tôt possible, voire même de reporter les déplacements prévus dans le secteur.
La France manque de sang. L'établissement français du sang appelle à la mobilisation. L'arrivée du mois de mai et ses ponts entraînent une baisse de la collecte alors que les besoins en transfusion restent élevés. C'est pourquoi l'établissement français du sang préfère, comme chaque année à cette période, prendre des précautions. Et après une semaine, l'appel a été entendu. Justement, la maison du don dans le 9e arrondissement de Paris, Clément Brossard, les donneurs répondent présents.
Ça va le garrot ?
Ouais.
Ok, encore quelques petites secondes.
Allongé, manche relevée, le bras tendu, Léa s'apprête à donner son sang.
Je ne l'ai pas fait depuis 2016. Ça faisait longtemps, je me suis dit, allez, il en manque. J'y vais.
Sur le lit d'à côté, Astrée, 28 ans, est-elle plus régulière?
Comme j'ai déjà donné mon sang, ils m'avaient dans leur système. Et du coup, on m'a appelé en me disant, il y a un besoin particulier en ce moment. Le mois de mai, cette année, est un peu particulier. Je pars à l'étranger. Je leur ai dit, bah non, mais si vous avez un créneau aujourd'hui ou lundi, mardi... Je suis toujours là.
Et ces volontaires sont les bienvenus pour Michel Villemur, médecin référent à l'établissement français du sang Île-de-France.
Contrairement à la population générale, nous redoutons le mois de mai. On ne peut pas dire aujourd'hui que nous sommes en alerte maximale, hein, mais on essaie de prendre les devants pour éviter justement d'être dans une situation à stock critique où là, il faut faire des alertes, appel aux dons, pénurie. On prévoit justement les difficultés.
Anticiper pour éviter de se retrouver dans la même configuration que lors du week-end de Pâques où l'équivalent de 10 000 poches de sang n'ont pas été collecté.
Mais une fois que c'est piqué, je relâche.
La coqueluche revient en France. Santé publique France appelle à la vigilance et rappelle l'importance de la vaccination. 70 cas ont été recensés cette année contre 39 l'année dernière et 34 en 2022.
RMC 7h04. Le gouvernement veut lutter contre la shrinkflation.
Les supermarchés devront mettre une affichette pour alerter les consommateurs quand les produits verront leur quantité diminuer, mais pas leur prix. C'était la promesse de la ministre du Commerce, Olivia Grégoire. Cette mesure entrera en vigueur le 1er juillet. Inès Legoul.
Oui, et ce, grâce à de nouvelles étiquettes en rayon. Concrètement, pour un cordon bleu shrinkflaté, par exemple, si son prix augmente de 20%, alors même que la quantité de viande, elle, diminue de 50%, eh bien le distributeur aura l'obligation de tout indiquer sur une affiche à proximité directe du produit à hauteur des yeux. Autrement dit, normalement, vous ne pourrez pas le louper. Alors ne seront concernés que les denrées alimentaires et non alimentaires, comme la lessive, par exemple, de marque nationale ou de marque distributeur, et ne seront pas concernés les produits dont la quantité peut varier, c'est-à-dire côté traiteur, boucherie ou encore le vrac. En revanche, cette obligation ne vaut que pour les supermarchés et hypermarchés. Supérettes et commerces de proximité sont donc pour l'instant épargnés.
Les supermarchés risquent une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 euros s'ils ne se soumettent pas à cette nouvelle règle. Les distributeurs estiment que c'est aux industriels de s'auto-dénoncer.
Des supportrices du PSG dénoncent des palpations abusives avant la rencontre de Ligue des Champions Barcelone-PSG mardi soir.
Des fouilles abusives auraient été effectuées par des stagiaires lors des contrôles de sécurité à l'entrée du stade. Palpation des seins entre les fesses. Une vingtaine de personnes ont témoigné de ces agissements. Léna Marjac, vous avez pu parler avec deux d'entre elles.
Anouche Morel, supportrice parisienne et directrice de l'association Her Game to France qui lutte contre le sexisme en tribune, vivait son premier déplacement européen.
Au moment de la palpation, elle commence par les épaules, elle pose ses mains sur mes seins et après passe sa main entre mon pubis et les fesses et après j'ai dû me retourner, elle a fait la même chose. C'était très bizarre à vivre.
Sur le coup, c'est le choc pour Anouche.
C'est totalement une atteinte à notre intégrité. Les palpations doivent être faites dans un certain cadre, elles ne doivent pas être intrusives à ce point. Alors, j'ai jamais vécu ça dans un autre stade en France.
Et elle n'est pas la seule à avoir subi des palpations abusives.
Je suis tombée sur une femme qui a commencé à me palper, mais vraiment les seins. On m'a carrément demandé d'écarter mes jambes.
Camille, 21 ans, était elle aussi au stade Montjuïc de Barcelone.
J'étais touchée, quoi. C'était même plus vérifié. C'était de l'attouchement, en fait.
La jeune femme réfléchit à refaire un déplacement européen après ces événements marquants. Des faits qui se sont déjà produits, d'ailleurs en Ligue 1, en marge de la rencontre entre Le Havre et Lens.
Un témoignage recueilli par Léna Marjac.
Le Red Star valide sa montée en Ligue 2.
Le club de foot de Saint-Ouen s'est incliné hier soir face à Dijon 2-0. Première fois de la saison que les joueurs d'Habib Bey goûtent à la défaite à domicile. Une défaite qui n'a pas trop d'importance puisque le match nul entre Cholet et Martigues leur permet de monter en Ligue 2. Et la fête était donc totale entre les supporters et les joueurs. Edgar Grolot.
Dès le coup de sifflet final, plusieurs centaines de supporters envahissent le terrain.
Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça, et enfin, ça y est, on est de retour en Ligue 2.
Certains sortent les fumigènes, d'autres s'effondrent sur la pelouse.
Avec mon ami, on a été dans les buts, on a reniflé l'herbe, etc. C'est vraiment un bonheur dans notre cœur.
Les joueurs, comme le milieu de terrain Fred Demby, sont portés en héros.
Je m'en souviendrai toute ma vie.
La saison dernière, le Red Star avait raté la montée à la dernière journée.
J'ai pleuré devant mon fils, et je m'étais dit plus jamais. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est le projet Red Star.
Un projet qui pourrait porter le club encore plus haut selon son entraîneur Habib Bey.
Ce club ne doit plus jamais, et je dis bien plus jamais, revoir le National. Si tout se fait correctement, le Red Star sera en Ligue 1 dans pas longtemps. Je vais être très clair, je veux une équipe pour monter en Ligue 1.
En fin de contrat, à la fin de la saison, Habib Bey prendra une décision sur son avenir avant le prochain match à domicile.
Et puis l'OGC Nice se relance en Ligue 1. Les partenaires de Kefren Thuram se sont largement imposés 3-0 face à Lorient en ouverture de la 30e journée. Au classement, les Niçois pointent à la 5e place ce matin. Lorient est avant-dernier. La suite de cette 30e journée cet après-midi, on aura droit au derby breton. Nantes Rennes à 17h. Lens recevra Clermont à 21h. Des rencontres bien sûr à suivre sur RMC. Puis chez les dames, un choc 100% français en demi-finale de la Ligue des champions féminines. L'OL défie le PSG à 19h. Une rencontre à suivre sur RMC.
Vous avez vu que les clubs français en Ligue des Champions féminines, c'est le top du top.
On est bien d'accord.
Eh oui, et alors pourquoi, à votre avis ?
Dites-nous.
On aura la réponse tout à l'heure.
Okay.
À 8h20 dans la Story Sport. Pourquoi les clubs français investissent autant dans le secteur féminin, notamment pour atteindre la Ligue des Champions ? Réponse dans la Story Sport de 8h20. Pour l'heure, il est 7h08.
À suivre dans la matinale week-end.
Après le meurtre de Philippe à Grande-Synthe dans le Nord, quel est donc ce site coco.gg ? Pourquoi est-il encore en ligne alors que toutes les associations réclament depuis des mois sa fermeture ? Maître Mathias Darmon, avocat d'Innocence en danger, est avec nous tout à l'heure. Notre invité à 7h40.
À 7h20, c'est déjà demain avec vous Anthony Morel. On va remonter le temps 2000 ans en arrière.
Oui, on va utiliser l'intelligence artificielle pour tenter de percer les mystères de l'histoire.
D'abord, la question du jour. Adult only. De plus en plus d'hôtels, de restos, de clubs de vacances qui offrent des espaces sans enfants. Est-ce que c'est de l'intolérance ? À vous, au 32-16. À vous de nous dire dans 2 minutes.
RMC, jusqu'à 9h30, la matinale week-end.
RMC, 6h30, 9h30. La matinale week-end.
Mathieu Roux.
Bon réveil sur RMC, 7h12.
RMC.
À vous de nous dire.
Bonjour Kevin Gasser.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu.
Tous les matins, une question d'actualité. Vous réagissez, vous débattez. Les espaces sans enfants se multiplient dans les restos, les hôtels, les résidences de vacances. Ces espaces sont-ils le symptôme d'une société intolérante ?
Oui, c'est la question que nous vous posons en pleine période de vacances scolaires. Les trois zones sont en congé. Mais aussi parce qu'il y a 3 semaines, la sénatrice PS Laurence Rossignol a déposé une proposition de loi. Elle souhaite interdire les lieux qui sont eux-mêmes interdits aux enfants. L'ancienne ministre les considère trop nombreux depuis quelques mois. C'est la cohabitation adulte-enfant qui s'effrite, regrette la sénatrice. Elle s'explique dans une vidéo postée sur Facebook. Écoutez-la.
Ceci me paraît être une pente extrêmement dangereuse et aussi un symptôme assez inquiétant d'une société qui se referme sur elle-même, d'une société qui pousse l'entre-soi à son paroxysme, à exclure les enfants.
Et que sait-on sur ces espaces sans enfants? Est-ce qu'il y en a vraiment autant, Kevin?
Alors, de manière générale, au niveau mondial, oui, ça se développe. C'est très simple, en quelques clics, de tomber sur une offre pléthorique d'hôtels qui propose des séjours adultes only. Ça s'appelle adultes seulement. En Espagne, au Maroc, à Cuba, il y avait, selon un site indépendant, plus de 1500 établissements qui proposaient des offres de ce type l'année dernière, contre moins de 700 en 2016. En France, en revanche, ça reste très marginal. Une vingtaine de campings seulement interdisent les enfants. Des gîtes et des hôtels proposent aussi des séjours réservés aux adultes, mais là, difficile d'estimer leur nombre et c'est souvent pas clairement affiché. Un restaurant alsacien a fait la mauvaise expérience d'ailleurs de l'assumer il y a 2 ans avec un panneau « Pas d'enfants, merci ». Ça avait créé un tollé et une très mauvaise publicité pour le restaurant.
Aïe.
Encore aujourd'hui, m'a dit la gérante, ce n'est pas tant les enfants qui la dérangent, mais les parents incapables de tenir leur progéniture en place.
Bon, concrètement, c'est légal, c'est pas légal. Comment la sénatrice compte s'y prendre pour mettre fin à ces espaces sans enfants?
Alors en fait, le code pénal interdit déjà toute discrimination liée à l'âge, mais selon Laurence Rossignol, c'est plutôt interprété comme l'âge avancé des seniors et non le jeune âge des enfants. La sénatrice donc souhaite modifier cet article et inscrire noir sur blanc les discriminations qui visent les enfants. Mais là encore, les hôteliers pourraient ruser et refuser les demandes de réservation en prétextant par exemple de ne plus avoir de chambre disponible.
Alors à vous de nous dire, ces espaces sans enfants sont-ils le symptôme d'une société intolérante?
Vous avez répondu oui à 59% à notre consultation sur Twitter. C'est partagé. Never Driven nous écrit, pour lui, le problème est ailleurs. Je propose plutôt de faire des espaces pour les gens mal élevés.
Ah, et oui, il y a d'ailleurs beaucoup de réactions comme ça aussi sur l'appli RMC, l'onglet Direct Studio. Merci beaucoup, Kevin. Tiens, témoignage de Vincent en Dordogne. Bonjour, Vincent.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Responsable du domaine des Ormeaux, là-bas en Dordogne. Vous avez 4 gîtes, c'est bien ça?
Tout à fait, 4 gîtes, une chambre d'hôte, oui.
Et donc, vous faites partie des rares en France, nous expliquait Kevin, à assumer de ne proposer que des séjours pour adultes.
Tout à fait, tout à fait. Et je crois que la question, c'est de revenir, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de séjour?
Oui.
Parce que c'est ça la question. Et moi, bon, ben, j'ai constaté, puisque j'ai eu 2 périodes, une période avec des enfants, une période sans des enfants, parce que il y a une configuration des lieux qui fait qu'on a beaucoup d'échanges avec nos hôtes, et donc je me suis aperçu que la vie professionnelle des gens était extrêmement stressante, on voit avec les burn-out, et que les gens ont besoin de ces moments de quiétude,
de calme,
et notamment des gens qui ont des enfants, et notamment, assez paradoxalement, pendant une année, j'ai fait un sondage avec mes hôtes, et les plus favorables ont été les grands-parents.
Ah bon?
Ah oui?
Eh bien oui, parce que les grands-parents, ils sont extrêmement sollicités.
Ouais, pendant l'année, ouais.
Ce sont les plus âgés qui souhaitent complètement débrancher pendant leurs vacances. Je réagis juste parce que Chris nous écrit sur l'appli RMC. Il vient effectivement confirmer ce que vous dites. Il nous dit avec mon épouse, on a fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Je comprends pas pourquoi on devrait supporter les enfants des autres. On est chef d'entreprise, ça nous prend énormément de place dans notre vie et on veut des vacances reposantes. Ça veut dire que, Vincent, en fait, c'est parce qu'il y a de la demande que vous avez fait ce choix.
C'est parce qu'il y a effectivement une demande et pas véritablement de lieu qui était accessible qu'on a pris cette option. Et puis, ça avait d'autres avantages, parce qu'effectivement, on a des gens qui sont sans enfants, on a des gens qui ont des enfants, enfin, pas dans leur vie privée. Ça change complètement la relation quand vous êtes en groupe au cours d'un apéritif, etc.
Ouais. Et
parce
dites
que les enfants, pardon, peuvent être un... Alors, les gens qui ont des enfants, on les dit bien tourner autour des enfants, mais c'est de façon très très forte.
Ouais.
Donc, pas.
On a du mal à vous entendre.
Ouais, Vincent, la liaison devient compliquée. Vincent.
Ah, c'est le Périgord.
Et voilà, la belle région du Périgord où c'est vrai
qu'on aime
venir pour se ressourcer. Non, mais j'en profite juste pour donner la parole à Tom aussi qui veut la prendre ce matin sur RMC. Et vous savez qu'on aime que tout le monde puisse s'exprimer. Tom est dans le Nord. Bonjour, Tom.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Vous avez fait une mauvaise expérience au camping?
Oui, c'est ça. Moi, j'ai subi une mauvaise expérience avec des amis. J'ai actuellement 23 ans. Et quand on avait 18 ans avec mes amis, on a voulu réserver des vacances dans un camping parce que c'était la seule chose qui nous était accessible avec notre budget de l'époque.
Mais j'ai fait la même chose à votre âge.
Ouais.
Pour fêter le bac.
Bac ES.
Eh ben voilà.
Et malheureusement, bon, les trois quarts des campings nous refusaient l'accès parce que voilà, nous étions un groupe de jeunes et que c'était des campings qui se disaient familiaux et accueillir un groupe de jeunes.
Donc une autre forme de discrimination, quoi, Tom. Peur voilà, qu'il y ait des nuisances de jeunes hommes de 18 ans qui viennent là pour faire la fête. Donc, autre forme de discrimination, d'intolérance. La loi que propose Laurence Rossignol, il faut qu'elle soit mise en place, faut qu'elle soit adoptée.
Ben, écoutez, moi, je pense que ça peut être un moyen pour les jeunes aujourd'hui d'avoir des espaces qui puissent leur être réservés, puisque aujourd'hui, les campings peuvent refuser l'accès à n'importe quelle personne. C'est-à-dire que
ça, c'est vrai, ça, voient... Vincent, en tant que propriétaire de gîtes, de chambres d'hôtes, vous pouvez refuser ?
Vous pouvez pas refuser comme ça. Il faut avoir une justification ou un motif. Mais effectivement, si vous avez des gens qui perturbent le bon fonctionnement, vous pouvez toujours. Parce que la question, l'intolérance, c'est pas le terme approprié, parce qu'en face, il y a la liberté.
Et c'est tout le débat, justement, qu'on a posé ce matin sur RMC. Liberté de choix ou intolérance. Qu'en pensez-vous, vous? Le 32-16 est ouvert. On continue d'en débattre avec vous jusqu'à 9h30. Merci beaucoup, hein, Vincent et Tom, de vos témoignages ce matin, parce que ça permet de confirmer que non seulement c'est une tendance, mais c'est aussi une demande de plus en plus des clients. Allez-y, vous poursuivez au 32-16. Il est 7h20 sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
7h21.
RMC.
C'est déjà demain.
L'actualité des nouvelles technologies, c'est tous les jours sur RMC avec Anthony Morel.
Et bonjour Anthony.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
On a un peu envie de vous appeler Père Castor ce matin. Monsieur Histoire, mais Histoire avec un grand H, puisque ouais. L'intelligence artificielle permet maintenant de déchiffrer des documents anciens, complètement illisibles, vieux de 2000 ans. En fait, l'histoire va être réinventée avec la technologie.
Ouais, on va pouvoir percer ces mystères, en fait, grâce à l'intelligence artificielle. C'est le programme du Défi du Vésuve, lancé par un laboratoire de recherche américain doté $1 million de récompenses. C'est un appel mondial à déchiffrer les papyrus d'Herculanum. Herculanum, ville située juste à côté de Pompéi,
bien sûr,
qui a été détruite par le Vésuve en l'an 79. Vous vous souvenez, c'est l'histoire de Pompéi avec le volcan.
Les bons souvenirs de cours.
Mais exactement, les bons souvenirs de cours. Et en fait, ces documents qui sont extrêmement précieux pour comprendre le quotidien des hommes et des femmes de l'époque, ce sont des rouleaux anciens extrêmement fragiles et complètement carbonisés. En fait, c'est des morceaux de charbon friables, impossible de les dérouler pour en découvrir le contenu, ça les détruirait instantanément. Mais ça, c'était sans compter l'intelligence artificielle qui est parvenue, grâce à une équipe de chercheurs, à en percer le contenu, à lire ces papyrus, mais sans les ouvrir.
Ah bon ?
Et ouais, incroyable. Alors la première étape, c'est qu'on a utilisé la tomographie par rayon X. C'est une technologie qui permet de reproduire la structure interne du papyrus et on est capable en fait de détecter des différences mais très très fines de densité entre les parties qui sont écrites et les parties qui sont non écrites. Et donc à partir de ça, bah on voit apparaître
on
sur l'écran
les lettres,
c'est ça, et on voit des bribes de mots qui commencent à apparaître comme par magie,
grâce à un rayon laser.
C'est exactement ça. Et une fois qu'on a fait ça, bah il faut déchiffrer évidemment ces lettres et ces chiffres, enfin ces mots, et là c'est de l'intelligence artificielle, c'est un programme d'apprentissage automatique qui a été conçu par un étudiant américain qui a permis de détecter des lettres grecques, un premier mot entier, porphyras, qui veut dire pourpre. Et à partir de ça, on a pu déchiffrer eh bien, des phrases et un passage entier. Les premiers passages auraient été écrits par un philosophe qui évoque comment profiter de la vie, du plaisir de la musique et de la nourriture. Voilà une leçon de vie qui date d'il y a 2000 ans.
Et qui est très actuelle.
Et qui est très actuelle. Il reste 800 rouleaux quand même à déchiffrer.
Outil formidable pour les historiens, pour les archéologues. Il y a d'autres exemples ?
Il y en a plein. En fait, l'IA va permettre, par exemple, de traduire des langues oubliées. L'acadien, par exemple, une des plus vieilles langues du monde, écrite et parlée en Mésopotamie 3000 ans avant Jésus-Christ. Des chercheurs ont mis au point une sorte de Google traduction de l'Antiquité, capable de traduire des langues antiques vers l'anglais. On peut aussi citer l'incroyable projet Reaper, qui vise à recomposer des fresques de l'Antiquité romaine détruites en milliers de morceaux. Et là, c'est un bras robotique couplé à une IA qui va identifier des fragments de manière autonome et les rassembler comme un gigantesque puzzle historique. C'est incroyable.
Eh oui, et Anthony, on peut aussi se servir de ces outils pour recréer des villes du Moyen-Âge.
Ouais, de l'Antiquité aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire modéliser la Rome antique, par exemple, de façon Google Street View. C'est-à-dire qu'on peut se balader comme si on était dans Google Street View, mais dans une ville de l'Antiquité, une ville qui n'existe plus ou plus sous cette forme-là. Et ça, ça va être aussi bien intéressant pour les historiens professionnels qui vont pouvoir chercher, je sais pas moi, à combien de millimètres faisait la toiture de telle ou telle maison, et puis des amateurs juste d'histoire qui veulent profiter et découvrir les villes du passé.
Merci Anthony, c'est déjà demain à retrouver en podcast sur l'appli RMC.
Il est 7h25 et dites-moi les amis, ça vous fait réagir comme jamais cette histoire de vacances sans enfants. Énormément d'appels au 3216, vous poursuivez bien sûr. Beaucoup de messages aussi sur l'appli RMC. Peggy Christophe.
Oui, qui nous dit, moi je vais régulièrement au Club Med qui développe des espaces zen sans enfants. Je trouve ça tout à fait normal en fait d'avoir une piscine calme sans enfants, qui joue, qui plonge, qui crie. Ils ont une piscine pour eux, chacun son mode de vacances.
Ouais, j'ai Christian aussi qui nous dit, il y a déjà des croisières qui existe réservé à des clients spécifiques, les personnes âgées. C'est pas de l'intolérance, c'est juste que certains ne supportent pas les cris des progénitures. Moi, je ne supporte pas les enfants turbulents, donc je suis pour. Il ne s'agit pas d'intolérance non plus pour Frédéric, c'est juste les attentes d'une nouvelle clientèle, un rythme de journée tranquille, des animations, une ambiance différente. Alors, pourquoi pas ? Vous êtes nombreux à nous dire finalement, non, c'est bien, c'est pas de l'intolérance. C'est pas exactement l'avis de Laurence Rossignol qui propose donc cette loi et de Laëlia Benoît. Elle est pédopsychiatre à l'université de Yale aux États-Unis, à l'INSERM en France. Elle sera avec nous tout à l'heure à 8h10 pour nous expliquer pourquoi, à ses yeux, la France, petit à petit, est en train de basculer dans une société de l'intolérance. Restez bien avec nous, vous êtes sur RMC.
RMC, 6h30, 9h30.
La matinale week-end.
Peggy Broche. On n'est pas vraiment de saison là aujourd'hui.
Ah non, ça c'est clair, les températures sont souvent 2 à 3 degrés sous les normales, généralement comprises entre 2 et 5 degrés ce matin, jusqu'à 7 dans l'ouest du pays et 13 près de la Méditerranée. Cet après-midi, il fera 10 à Mulhouse, 11 à Lille, 13 degrés à Paris, 14 à Rennes, 16 à La Rochelle, 17 à Nîmes, 18 à Bordeaux et Toulouse. On n'est plus sur des valeurs de saison dans le sud, 20 à Montpellier et 22 à Perpignan. Alors on a un ciel gris avec des averses et de la neige sur l'est du pays, entre les frontières du nord et l'Auvergne. Rhône-Alpes. On a également un ciel plutôt ensoleillé sur l'ouest, entre la Bretagne, la Normandie, en allant vers le sud-ouest après dissipation des grisailles matinales et la Méditerranée. Puis sur la région centrale, entre l'Île-de-France et le centre, là, entre nuages et éclaircies. Dans l'après-midi, on a quelques averses orageuses sur le nord-est, également entre la Côte d'Azur et la Corse. Plus de soleil ailleurs et beaucoup de vent près de la Méditerranée.
Votre rendez-vous sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr.
Samedi 20 avril, bon réveil à vous.
Vous êtes sur RMC, il est 7h30.
RMC, la matinale week-end.
Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous, Clara Gabillet, bonjour.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous. La thèse du guet-apens privilégié après la mort de Philippe à Grande-Synthe, deux adolescents ont été placés en détention provisoire. L'appel de l'établissement français du sang qui s'inquiète d'une baisse des dons au mois de mai. Et la Ligue 1 chamboulée par les Coupes d'Europe, l'aménagement du calendrier agace certains entraîneurs.
À Dunkerque, deux adolescents de 14 et 15 ans ont donc été mis en examen et écroués.
Ils sont poursuivis pour assassinat après l'agression mortelle lundi soir de Philippe, ce jeune homme de 22 ans à Grande-Synthe. À ce stade, la justice retient la thèse d'un guet-apens tendu par les suspects. Les deux adolescents interpellés affirment avoir fixé un rendez-vous à la victime sur un parking près d'une supérette via un site de rencontre, Julie Brault.
Oui, à ce stade, c'est donc bien la thèse d'un guet-apens qui a été retenu par la justice, un stratagème meurtrier que le suspect de 14 ans a détaillé sans aucun regret. Face aux enquêteurs, il a expliqué être le créateur, avec son complice présumé, d'un faux profil virtuel, celui d'une adolescente de 14 ans créée sur un chat en ligne nommé Coco. Leur but, piéger ceux qui tenteraient de rencontrer cette fausse mineure. Un piège dans lequel serait tombé Philippe lundi dernier avant de se faire tabasser à mort. Ce soir-là, le jeune suspect affirme qu'il a voulu s'assurer d'être bel et bien en présence de sa victime. Il aurait alors appelé sur son numéro et entendu le téléphone sonner, dit-il. Une version qui doit encore être vérifiée par l'analyse de son portable. Celui de Philippe, en revanche, n'a pour l'instant pas été retrouvé.
Alors, qu'est-ce que ce site coco.gg ? Pourquoi les associations réclament-elles sa fermeture ? L'avocat d'Innocence en danger, maître Mathias Darmon, est avec nous à 7h40, juste après le journal.
En Alsace, un concert caritatif et solidaire organisé par les proches de Lina ce soir dans dans le Bas-Rhin. Cette adolescente de 15 ans est toujours introuvable depuis sa disparition il y a 8 mois en Alsace. Elle n'a jamais pris le train pour Strasbourg où son petit ami l'attendait. La mère de Lina organise donc ce concert pour soutenir les proches de l'adolescente et aider à la poursuite des recherches, Lucille Pascanet.
Ce soir, Frank Krieger sera sur scène, guitare et micro à la main, avec les 4 autres membres de son groupe de pop-rock Why Not. C'est eux qui sont à l'origine de ce concert solidaire pour Lina.
On connaît Lina, on connaît sa maman. Fanny, Lina se rendait à nos concerts assez régulièrement. On est tous parents dans le groupe, on a tous été touchés. Alors en plus, c'est régional et certains membres du groupe habitent à Plaine. L'idée était venue de faire quelque chose pour cette association. Ce qu'on sait faire, nous, c'est chanter, faire de la musique. Donc on s'est dit que un concert, ça pourrait être bien.
Prix de la place, 5 euros. Tous les bénéfices réalisés seront reversés à l'association Les Bonnes Étoiles de Lina, créée par sa maman fin janvier. Elle parlait du concert en conférence de presse le mois dernier.
Ce concert est parti vraiment d'une volonté de tout le monde de faire quelque chose de bien. Tous les gens qui viendront seront là pour passer un moment de soutien, de solidarité pour l'association. Pour Lina.
Ce soir, les organisateurs attendent plusieurs centaines de personnes avec une seule crainte, qu'il n'y ait pas assez de place pour accueillir tout le monde dans la salle des fêtes de Plaine.
La France appelle à cesser l'escalade militaire au Proche-Orient. Hier, des explosions ont été entendues en Iran. Attaque non revendiquée mais imputée à Israël par des médias américains. L'Iran qui maintient la pression. Le ministre des Affaires étrangères iranien a affirmé que son pays réagirait immédiatement et au niveau maximum si Israël agissait contre ses intérêts. À Paris, un homme interpellé est placé en garde à vue après être entré dans le consulat d'Iran près du Trocadéro, porteur d'explosifs qui étaient en fait de faux explosifs. Il s'agit d'un ressortissant iranien de 61 ans qui aurait voulu venger son frère.
RMC 7h34, l'établissement français du sang appelle à la mobilisation.
En prévision du mois prochain, car avec les jours fériés et les ponts du mois de mai, les Français ont tendance à moins donner et les stocks se réduisent. C'est pourquoi l'EFS, comme chaque année à cette période, insiste sur ses besoins. Michel Villemur est médecin référent à l'établissement français du sang.
Contrairement à la population générale, nous redoutons le mois de mai. On a beaucoup de jours fériés, beaucoup de ponts et une diminution des prélèvements. Comme ils s'en vont en week-end, ils ne viennent pas donner. Et pourtant, dans les services, dans les hôpitaux, les malades ont toujours besoin de produits sanguins. On ne peut pas dire aujourd'hui que nous sommes en alerte maximale, hein, mais on essaie de prendre les devants pour éviter justement d'être dans une situation à stock critique où là, il faut faire des alertes, appels aux dons, pénurie. On prévoit justement les difficultés.
Si vous prenez la route ce week-end en région parisienne, prenez un peu de marge. L'autoroute A13 est fermée entre Paris et Vaucresson jusqu'à lundi inclus. En cause, une fissure de 80 cm de profondeur due à un mouvement de terrain. La préfecture des Hauts-de-Seine recommande d'éviter le secteur. Une usine à saumon qui suscite la polémique. Elle pourrait voir le jour au Verdon-sur-Mer en Gironde et devenir la plus grande d'Europe avec 2 millions de saumons par an, soit 10 000 tonnes. Un projet de ferme aquacole d'une quarantaine de bassins qui provoque la colère des associations environnementales et soulève des interrogations chez les habitants. Ils se réunissent aujourd'hui, Pierre Bourgès.
La plus grosse usine d'Europe au Verdon-sur-Mer avec près de 250 emplois à la clé, pour Jean-Claude, c'est une aubaine.
Économiquement, ce serait une bonne chose. Ça crée des emplois, ça crée du travail.
Mais d'autres habitants s'interrogent sur les 7000 m3 d'eau utilisés chaque jour par l'usine, soit près de 3 piscines olympiques.
Ça nous paraît quand même un peu excessif.
Je m'interroge beaucoup sur le fait de savoir qu'est-ce que ça peut amener comme pollution.
Des interrogations également soulevées par les associations environnementales comme Au Secours Agissons, qui reprochent l'absence d'études d'impact réalisées par des institutions indépendantes. Esther Dufort est membre de l'association.
Ce que l'on sait quand on regarde ailleurs, notamment par exemple au Danemark, il y a déjà une usine qui a eu une fuite de chlorure de fer. Est-ce qu'on a envie de prendre ce risque pour nous, pour notre estuaire? Et donc de toucher à toute l'économie locale, l'ostréiculture, la pêche locale.
Sauf que pour Jacques Bidalin, le maire du Verdon, c'est l'occasion de dynamiser ce territoire enclavé.
Économiquement, c'est notre planche de salut, quoi. Les jeunes, ils s'en vont, ils n'ont pas de travail sur place. Donc là, il y a une main d'œuvre, ça va générer une zone artisanale. Si ça se fait pas, je pense qu'on pourra jamais rien faire au Verdon.
Pour le moment, Pure Salmon attend encore la validation de son dossier environnemental par la préfecture de Gironde.
Le reportage de Pierre Bourgès, correspondant de RMC dans le Sud-Ouest.
La Ligue 1 est en ouverture de cette 30e journée. La victoire 3-0 de Nice face à Lorient hier soir.
Et au programme aujourd'hui, Nantes reçoit Rennes à 17h. Clermont se déplace à Lens à 21h. Vous le vivrez sur RMC. Le calendrier de la Ligue 1 aménagé par la Ligue de football professionnel pour mettre le PSG et Marseille dans les meilleures dispositions. Les clubs qualifiés en 2020 demi-finales de Coupe d'Europe. Toutes les équipes ne joueront donc pas, comme c'est l'habitude, l'avant-dernière journée à la même heure. Et ça fait réagir les entraîneurs, Pierre-Yves Leroux.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que les avis sont partagés. Certains, comme Adi Hütter, l'entraîneur de Monaco, sont favorables à cette démarche. D'autres, s'ils comprennent que les clubs français soient protégés, constatent que certains clubs de Ligue 1 vont être désavantagés pour la fin du championnat. C'est l'avis de Pierre Sage, le coach de Lyon.
On se rend compte que Lorient, notamment, va devoir enchaîner deux matchs dans une semaine, alors qu'aujourd'hui, c'est la première équipe relégable, en tout cas barragiste. Et je ne pense pas que ce soit une bonne affaire pour eux.
Éric Roy, l'entraîneur de Brest, qui découvrira peut-être l'Europe la saison prochaine, s'étonne, lui, de la spécificité française.
En France, on nous a vendu le fait de réduire le championnat à 18 clubs pour avoir moins de matchs. Et donc peut-être du coup être plus performant, nous enlever une coupe nationale aussi dans cet objectif-là. Donc on a fait tout ça et on aménage encore les choses. Donc, juste pas juste, j'en sais rien. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'en France qu'on fasse ça quoi.
Luis Enrique, enfin le coach du PSG, s'est dit quant à lui satisfait de cet aménagement, tout en comprenant que chacun avait toujours tendance à regarder son propre nombril.
Du rugby également en programme avec la 21e journée Top 14 à 15h Castres, La Rochelle à 17h Pau, Montpellier, Perpignan contre le Loup, Stade France. Bayonne, Oyonnax Racing 92 et ce soir 21h05 Toulon-Toulouse, ce sera les retrouvailles hein, avec ses anciens coéquipiers pour Melvin Jaminet, joueur du RCT qui a quitté Toulouse en cours de saison.
Et là aussi ce sera à vivre bien sûr sur RMC. Merci beaucoup Clara Gabillet. Ils sont beaux mes vinyles. Qui
ils
veut mes vinyles
beaux.
La foire aux vinyles continue ce matin.
Ce sont pas les vôtres. Hein.
Et tout le week-end. Non, ce sont les vinyles de la discothèque
voilà,
d'RMC que je suis allé piqué.
On a bien compris.
Que je suis allé voler dans la cave.
Bon, tant que c'est pour les auditeurs, je pense que ça passe.
Oui, mais bien sûr, j'ai pensé à vous qui nous écoutez. On avait envie de vous récompenser, de souligner votre fidélité à RMC à la matinale week-end à l'occasion du Discard Day. C'est aujourd'hui. Les vinyles d'RMC sont aux enchères. Toute la discothèque, c'est collector quand même. Eh bien, certains ne le seront pas. Voilà, ceux que j'ai piqués, ils vont être pour vous, à gagner. Vous restez à l'écoute d'RMC. On va vous passer des titres. Si vous reconnaissez l'artiste, vous avez gagné. Alors le prochain artiste, c'est qui ? Presque trop facile,
oui,
non ?
Oui, c'est facile, là.
C'est
franchement,
vrai, hein ?
Là, c'est donné. Hein.
On allait dire un grand classique.
Oui,
c'est
on peut dire,
le dire.
Une grande voix.
Vous reconnaissez cet artiste, vous composez le 32-16, vous nous envoyez votre réponse sur Direct Studio, sur l'appli RMC, avec votre numéro de téléphone. Le premier ou la première gagne et est avec nous à l'antenne pour remporter son 45 ou son 33 tours tout à l'heure, juste avant 8h. Allez-y, bonne chance à vous.
À suivre dans la matinale week-end.
À 7h50, c'est Racontez-nous avec vous, Caroline Philippe. On parle de quoi ce matin ?
Il y a du nouveau dans la disparition du Boeing 777 de la Malaysia Airlines. Je vous raconte tout.
À tout à l'heure, Caroline. D'abord, Grande Sainte. Philippe, battu à mort. La piste du guet-apens depuis le site internet coco.gg est maintenant privilégiée. Mais c'est quoi ce site ? Pourquoi les associations réclament sa fermeture depuis des mois ? L'avocat d'Innocence en danger, maître Mathias Darmon, est notre invité dans 2 minutes.
RMC,
la matinale week-end.
RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Soyez les bienvenus, merci d'avoir choisi RMC, il est 7h43.
RMC,
l'invité du jour.
Et l'invité du jour, c'est vous, Mathias Darmon, avocat de l'association Innocence en danger.
Bonjour maître.
Bonjour à tous les deux.
Grand Sainte dans le Nord, deux mineurs de 14 et 15 ans mis en examen hier pour assassinat, placés en détention provisoire. Dans l'enquête sur l'agression mortelle de Philippe, ce jeune homme de 22 ans battu à mort en début de semaine. Piste privilégiée désormais, celle d'un guet-apens, c'est ce que dit la procureure. Les deux mineurs disent en effet avoir fixé un rendez-vous à la victime sur un parking. Pour cela, ils ont eu recours à ce site internet de rencontres, Cocoland ou coco.gg. Votre association réclame sa fermeture depuis des mois. Pourquoi ?
Alors, pour être précis, l'association Innocence en danger réclame sa fermeture depuis 2013. Et une pétition a été lancée en 2016.
Depuis des
d'ailleurs.
Années.
Donc, ça
plus
fait très
ans.
Longtemps qu'on demande la fermeture de ce site-là. Parce que c'est un site dangereux. En fait, c'est, on connaît tous le Darknet. Bah, le coco.gg, c'est un peu du EasyNet. C'est-à-dire qu'on peut se connecter dessus de manière extrêmement simple. N'importe quel utilisateur peut y accéder.
Aucun filtre.
Aucun filtre, aucune vérification, aucune modération. Et c'est bien là le problème, c'est qu'on peut se faire passer pour quelqu'un de 12 ans quand on en a 52. On peut se faire passer pour quelqu'un qui en a 48 alors qu'on en a 13. Donc c'est très problématique. Il n'y a aucune vérification sur l'identité des personnes qui se connectent.
Et un site sur lequel on retrouve essentiellement beaucoup de jeunes dès l'âge de 12 ans, dès le collège ?
Oui, il y a des jeunes, des collégiens, des lycéens qui se connectent sur cette plateforme très facilement pour échanger sur ce qui s'appelle des canaux, en fait.
Des espaces de discussion, des salons de discussion. Pour ceux qui auraient une certaine forme de nostalgie, ça nous fait penser à MSN.
Oui, c'est à peu près les mêmes années, hein, parce que la création de 2003...
Caramel, ce MSN, genre de choses.
Oui, c'est à peu près les mêmes moments. Donc, ils se revendiquent premier chat de France, un chat sans inscription. Voilà, donc il suffit simplement de rentrer son pseudo, son sexe, son âge et son code postal, sans aucune vérification là encore. Et puis ensuite, on accède au site internet et aux différents canaux qui sont proposés.
Et les canaux, il y a femmes infidèles, 60 ans et plus, cinéma, cuisine, lycéenne. Donc on voit bien qu'il y a de tout, du n'importe quoi et parfois du très grave. Comment ça peut exister en France ? Pourquoi vous réclamez depuis plus de 10 ans la fermeture de ce site et pourquoi ça n'est toujours pas le cas ?
Pourquoi ça ferme pas ? Bon, il y a plusieurs manœuvres qui ont été mises en place par ce site internet. Déjà, il appartient désormais à une société bulgare depuis 2023, donc depuis l'année dernière. Il est immatriculé là-bas. Une société qui s'appelle Vinci SA. Et il est hébergé sur l'île anglo-normande de Guernesey. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour les autorités françaises.
Ça permet de contourner.
Ça peut être contourné, de se dissimuler, voilà, de passer un petit peu à travers les radars. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle pas .fr mais .gg. Donc c'est parce qu'il est hébergé à Guernesey. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour les autorités de le fermer.
On a une idée du nombre d'utilisateurs de ce site ?
Oui. Alors j'ai fait mes petites recherches. Donc on est à 850 000 personnes qui ont utilisé ce site internet en mars 2024, le
en
mois
France.
Dernier. En France, simplement. Donc, on est près du million d'utilisateurs, ce qui est absolument colossal. Et voilà. Et encore une fois, on ne sait pas vraiment qui sont ces utilisateurs.
Je précise que pour ce qui s'agit de l'actualité concernant Philippe A. Grandsainte, l'enquête se poursuit. On ne sait toujours pas d'ailleurs précisément s'il était vraiment utilisateur, si les mineurs qui ont créé ce guet-apens l'attendaient lui ou une autre personne. Il y a des témoignages encore à recouper. En revanche, d'autres faits divers liés à ce site là sont avérés depuis très longtemps. Des violeurs du Vaucluse entre 2011 et 2020. Il y a tout juste un an, un homme de 40 ans qui avait raconté comment il avait été ligoté, frappé, racketté, puis humilié pendant une heure et demie par un homme qui lui avait tendu le genre de même piège sur coco.gg. Et puis en octobre dernier, un homme homosexuel d'une cinquantaine d'années qui avait pareil raconté sa violente agression. Les autorités, vous nous expliquiez, peuvent difficilement fermer ce site. Mais pourquoi il n'y a pas plus de volonté, en tout cas de prévention ? Oui. Attention, n'allez pas sur ces sites, notamment auprès des jeunes.
Je pense que c'est le rôle des parents, des familles, des proches, peut-être aussi le rôle du gouvernement, des autorités, de démontrer la dangerosité de ce site internet et d'éviter que les enfants, à 12-13 ans, on est totalement à la merci, on est totalement dépendant. Et il faudrait absolument leur expliquer que ce type de site internet-là est dangereux parce que les personnes qui y sont particulièrement malveillantes et ont des pensées plus que condamnables. Et c'est vraiment un lieu d'échange illicite, que ce soit il peut y avoir à propos des armes, des stupéfiants ou de pédocriminalité. Vraiment, c'est très dangereux.
Pour celles et ceux qui nous écouteraient et qui auraient déjà eu de mauvaises expériences sur ce site, votre association Innocence en Danger pourrait les accompagner pour un dépôt de plainte, pour pouvoir se défendre ?
Oui, je vous remercie de me poser cette question. Il y a effectivement l'association Innocence en Danger vient en aide en fait aux enfants qui sont victimes d'infractions sexuelles, sur les délits, des crimes. Souvent sur coco.gg, on a un délit qui s'appelle le délit de corruption de mineurs, voilà, qui est très courant. Donc c'est-à-dire que c'est des adultes qui vont montrer des images pédopornographiques à des enfants, parce qu'à à 12 ans on peut considérer qu'on est un enfant, un très jeune adolescent, et ça c'est puni par la loi et c'est condamnable et c'est condamné par les tribunaux. Et donc si des enfants, des adolescents sont victimes de ce type de fait là évidemment,
il faut se rapprocher de
danger est à leur côté pour une aide juridique et psychologique.
Et je rappelle aussi que sur le site de votre association, la pétition pour demander la fermeture de ce site est toujours ouverte. Elle recueille plus de 5000 signatures à ce jour. Merci à vous, Maître Mathias Darmon, d'avoir été avec nous ce matin, avocat de l'association Innocence en Danger.
Merci.
Bonne
pour
journée, bon week-end sur RMC. 8h-10, à tout de suite.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
Ah, j'allais dire encore plus facile, écoutez bien. Depuis 6h30 ce matin, nous avons lancé notre foire au vinyle, le Disquaire Day, la discothèque d'RMC. Et pour vous ce matin, pas toute la discothèque, hein. Vous reconnaissez l'artiste là, 3216, vous nous envoyez un message. Le gagnant ou la gagnante dans 2-3 minutes.
Et vous repartez avec le vinyle original, mais d'abord...
Racontez-nous.
C'est l'heure de vous raconter l'actualité. C'est avec Caroline Philippe.
Bonjour Caroline.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
Vous nous racontez ce matin l'une des informations de la semaine. Il y a du nouveau dans la disparition du Boeing 777 de la Malaysia Airlines. C'était il y a plus de 10 ans, le 8 mars 2014.
Oui, le fameux vol MH370 et ses 239 passagers. Disparition qui a mobilisé des centaines d'enquêteurs et d'experts et qui a même suscité une série à succès sur Netflix. Il y a du nouveau grâce à un ancien pilote de ligne toulousain d'Air France, Patrick Blély. Il a mené sa propre enquête, notamment grâce à des données inexploitées de 3 radars malaisiens. Elle semble accréditer sa thèse, celle d'un détournement suicide qui finit par un amerrissage forcé dans le sud de l'océan Indien, dans une zone où les recherches n'ont pas encore été effectuées.
Et que disent ces données, Caroline ?
Grâce à elles, les experts qui travaillent avec Patrick Blély ont reconstitué avec précision la trajectoire de l'avion entre le moment où le transpondeur a été mis en stand-by et sa sortie de la couverture radar. Une période d'environ une heure durant laquelle l'avion serait repassé au-dessus de la Malaisie, aurait viré à droite et survolé le détroit de Malacca. Tout ça en pilotage manuel. Celui qui était aux commandes aurait alors simulé une descente d'urgence pour dépressuriser la cabine, le début de l'horreur. Au bout de 22 minutes, les passagers n'ont plus d'oxygène dans leur masque, contrairement au pilote dans le cockpit qui dispose d'une autonomie d'oxygène de 27 heures. Autre fait troublant, le téléphone portable du copilote a borné sur une antenne au sol dans l'île de Penang, 30 minutes après la descente de l'appareil, sans doute parce qu'il a dû tenter d'alerter l'extérieur. Débarrassé des passagers, si j'ose dire, le pirate de l'air a pu poursuivre son plan. Après être passé au nord de Sumatra, il a mis cap au sud jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de kérosène et donc jusqu'à amerrir dans l'océan Indien. Ce qui expliquerait au passage pourquoi on a retrouvé si peu de débris. La thèse de Patrick Blély, c'est donc celle d'un détournement opéré par quelqu'un qui voulait se suicider, qui, on ne sait pas.
C'est complètement dingue. Est-ce qu'on sait du coup où pourrait se trouver la carlingue ?
Patrick Blély a défini une zone de recherche qui n'a pas encore été couverte. Elle s'étend sur 2200 km² et pourrait être explorée en 10 jours. 2 sociétés privées sont prêtes à procéder aux recherches et à ne les facturer que si elles retrouvent l'avion. Début mars, le gouvernement malaisien se disait prêt à reprendre les recherches en cas de nouvelles preuves crédibles. En 2018, Kuala Lumpur avait proposé 70 millions de dollars à ceux qui retrouveraient l'épave. On attend encore la réponse officielle de la Malaisie, mais on imagine, 10 ans après, l'espoir que ça suscite chez les familles.
Merci Caroline. Racontez-nous, en retrouvant podcast sur l'appli RMC.
8h05.
La matinale week-end.
Le bonus RMC.
L'heure de la foire au vinyle RMC à l'occasion du Disquaire Day. Les vinyles d'RMC Collector sont à gagner si vous nous écoutez. Je peux vous dire que beaucoup d'entre vous ont reconnu l'artiste là de la demi-heure qu'on vous a passé juste après le journal de 7h30. Qui donc ? Tiens, Marie avait la bonne réponse. Je crois que Marilyn aussi. Mais le premier à avoir composé le 32-16, c'est Emmanuel. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes en Moselle. Bah, ça va bien. Fiscaliste là-bas, Emmanuel. Vous avez entendu ça tout à l'heure ?
Oui. Ouais, j'ai entendu. J'ai même reconnu.
Tout de suite ?
Eh ben, c'est Luciano Pavarotti.
Eh oui. Bravo.
Et sa chanson Caruso.
Oh là 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 !
Mais qu'il est bon !
Artiste. Ah bah alors là, vous méritez votre vinyle collector RMC Luciano Pavarotti. En grand, c'est quoi ? C'est 33 tours. Hein.
Oui.
C'est ça. Est-ce que vous voulez, Emmanuel, essayer d'en gagner un petit deuxième ?
Écoutez, allons-y.
Alors tout à l'heure, Amandine, le deuxième ne l'a pas reconnu. C'est un 45 tours. Bah, on va le remettre en jeu, tiens.
J'avais pas non plus. Hein.
Ah.
J'ai pas non plus. Eh ben, vous, mais vous l'aviez, vous ?
Écoutez, moi je les ai sous
nous,
les yeux.
Nous, c'est facile, mais oui.
Mais en revanche, il y a des auditeurs qui l'ont reconnu tout à l'heure en l'écoutant. Hein, mais ils n'ont pas été les premiers à composer le 32-16. Donc, bon, vous voulez encore un autre ? Une et dernière chance.
Allez.
Bon, alors celui-là, je le remets encore en jeu.
Un groupe très connu aussi dans les années 70.
Ah ouais, j'ai déjà entendu,
ouais.
Mais je connais pas le nom du.
Ils sont quatre. Aïe aïe aïe.
C'est la bande originale du film Nos Jours Heureux. Autre indice, toujours pas Emmanuel.
Ah, j'ai pas.
Groupe de rock américain de la Californie. Ah.
Bon bah écoutez, on aura tout fait, hein. Voilà. Vous avez déjà Luciano Pavarotti qui part chez vous, Emmanuel. On en est très heureux. Bravo à vous.
Je suis super content. Merci à vous.
Et la foire au vinyle d'RMC continue. Les deux qui n'ont pas été reconnus par Emmanuel sont remis en jeu. On en a encore plein d'autres tout au long du week-end. Restez bien à l'écoute de la matinale week-end. Bientôt les infos de 8h.
La matinale week-end.